Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet, cinéma d'art et d'essai situé place du Bourguet au cœur de la ville de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. 6 films sont à l'affiche, comme souvent cette semaine du 7 au 13 février. 6 films en provenance de Grande-Bretagne et d'Allemagne, de Russie, de France, d'Espagne et même pour partie d'Afghanistan. Le premier film dont on vous parle, c'est La Zone d'intérêt, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, cinéaste britannique que l'on a connu dans les années 90 par des clips, notamment de fameux clips très réussis de Radiohead ou de Massive Attack. Et puis en 2000, il a réalisé un premier long-métrage qui est plutôt passé inaperçu alors, qui s'appelait Sexy Beast. C'est en 2004 qu'il va attirer davantage l'attention avec un film qui s'appelle Birth. Jean-Claude Carrière, l'immense Jean-Claude Carrière, était au scénario pour une histoire totalement invraisemblable et d'une grande force dans son écriture et dans sa mise en scène. C'est un film extrêmement singulier dans la carrière de Nicole Kidman. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. C'est un film formidable. Mais c'est 10 ans après, 2013-2014, qu'on va l'admirer davantage encore avec Under the Skin, que je tiens pour ma part pour un des grands films des années 2010. Avec Scarlett Johansson, une histoire assez improbable là encore, et une grande réussite esthétique et plastique, et musicale aussi, car le son compte beaucoup chez Jonathan Glazer, et on va le répéter ici pour The Zone of Interest, la zone d'intérêt, qui est le titre au départ d'un roman de Martin Amis, qui est d'ailleurs mort le jour de la présentation du film à Cannes, car oui, nous avons découvert nous-mêmes la zone d'intérêt au Festival de Cannes en mai 2023. Le film, si tôt présenté au festivalier, a figuré parmi les favoris du palmarès et de fait, il a obtenu le Grand Prix, qui est le deuxième prix après la Palme d'Or, laquelle a été remise, vous le savez, à Justine Triet pour Anatomie d'une chute. La zone d'intérêt a globalement suscité un sort de consensus et d'un accord tacite sur la pertinence du film et son éthique, disons. Mais quand même, et c'est le cas encore lors de la sortie, la semaine passée en France, il y a des partisans, bien sûr, et puis il y a d'autres personnes plus critiques qui reviennent notamment sur ce dispositif. En fait, c'est à peu près les mêmes partis pris qui suscitent d'un côté des louanges et de l'autre des critiques plus acerbes. Le film repose sur un dispositif qui consiste au moins pour une première partie du film à montrer le quotidien de la famille, femme, enfant, du directeur du camp d'Auschwitz lors de sa plus sinistre période d'activité, pour le dire comme ça, dans les années sans doute 40, 42, 44. On est donc aux abords du camp d'Auschwitz, dont on perçoit certains murs et la fumée évidemment qui s'échappe de certaines cheminées. Mais c'est dans le son, dans la bande-son. Et le travail qui a été fait sur le son est extraordinaire. Il s'agit évidemment, quand il se pose la question de la représentation de la Shoah, de l'extermination dans les camps, tels qu'Auschwitz-Birkenau, la question de la représentation qui a été le cheval de bataille, bien sûr, notamment de Claude Lanzmann, dont je rappelle que vous pouvez voir en replay, jusque début mars, je crois, Shoah, qui est un film indispensable, un film exceptionnel qu'il ne faut surtout pas raté puisqu'il est accessible sur le site de France Télévisions. Et évidemment, Jonathan Glazer connaît très bien Shoah, connaît très bien les problématiques, les questions que pose le film et que Claude Lanzmann a porté, a incarné jusqu'à sa mort il y a quelques années. Et il s'efforce d'être à sa manière conforme, en tout cas de prendre en charge les questions qui ont été celles de Claude Lanzmann, mais dans une œuvre de fiction, pour le coup. Alors c'est une œuvre de fiction cinématographique, mais c'est aussi peut-être d'abord une œuvre plastique, à la fois visuelle et sonore. Johnny Byrne a conçu la bande-son, et cette bande-son est exceptionnelle. Il a d'ailleurs reçu le prix de la Commission supérieure technique à Cannes. La musique, qui est puissante, est à nouveau signée de Mika Levy, qui est cette jeune compositrice musicienne extrêmement talentueuse en Grande-Bretagne, qui avait déjà donc composé la musique de Under the Skin, que j'adore par exemple, et elle œuvre par ailleurs en Grande-Bretagne sous le nom de Mikachu également. Et ce film, donc, il importe en ce début d'année de le voir peut-être pour en saisir tous les enjeux relatifs à cette représentation de la Shoah. la représentation de l'indicible, en quelque sorte, de l'ineffable, et avec toutes les pistes de réflexion que le film aborce de manière très, très pratique et plus ou moins incarnée, vous le verrez. Le mieux, c'est qu'on en parle une fois que vous l'aurez vu. Ce film, donc, s'appelle « La zone d'intérêt » de Jonathan Glazer, et il est programmé pour 5 séances cette semaine.
Die herrliche Zeit, die wir im Gemüt im gastlichen Hause Hirsch verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Le deuxième film de la semaine, nous l'avons également découvert à Cannes, et c'était, pour tout vous dire, l'un de nos coups de cœur. C'est un film russe, et compte tenu de l'actualité, c'était d'ailleurs le seul film russe présenté à Cannes. Je pense que c'est assez rare de n'avoir qu'un film russe en compétition au Festival de Cannes. Mais quel film ! Un premier film d'un cinéaste dont je crois personne ou presque n'avait entendu, y compris à Cannes, entendu parler. Il s'appelle Ilya Povolotsky, et ce film dont on ne savait rien, qui avait un titre à la fois simple et ambitieux, La Grâce, a été vraiment une révélation merveilleuse. Alors, je dis un petit mot d'ailleurs de ce titre, car il est fort intéressant. Ce titre, qui a été très directement traduit par le distributeur par La Grâce, provient du russe blaz, je le dis évidemment sans accent. Mais la notion, cette notion de blaz en russe comporte une nuance ironique de lubie, je cite le réalisateur Povolotsky. Pas forcément la folie, mais une certaine forme de bizarrerie matinée d'élan spirituel, de sainteté, de sincérité. C'est toute la simplicité et l'ambiguïté aussi du film qui repose beaucoup sur des non-dits, sur des silences. On a là deux personnages, un homme adulte, une jeune fille, toute jeune fille, adolescente, qui doit avoir 16 ans peut-être, ou 17, qui sillonne les paysages du sud jusqu'au nord de la Russie, des paysages très impressionnants pour nous, et le film épouse souvent le panoramique, la forme du panoramique, pour nous montrer longuement, de manière très contemplative, ces paysages. Et la présence même d'un van dans ces paysages évoque un autre film qui est, à mon sens, une des grandes références de Povolotsky, qui est un film que nous avons montré récemment, c'est Au fil du temps de Wim Wenders. Et ce film, qui est un road movie littéralement, se rapproche des premiers films de Wenders que nous avons montrés pendant les fêtes, tels que Alice dans les villes, où là aussi on voyait un homme avec une jeune, toute jeune fille. Mais ici, on l'apprendra un peu plus tard, mais de manière presque non avouée, c'est un père et sa fille. Ce père et sa fille sillonnent les routes ou les pistes de Russie. Vous verrez que visuellement, c'est vraiment très très beau. Et ça vient en nous soulever des émotions qui sont vraiment liées aussi à la durée de ces plans, séquences. Et combien les sentiments, les émotions, ou tout cela peut-être contenu dans les personnages vient s'incarner dans les paysages en quelque sorte. Et à travers la durée, car encore une fois, le film comprend une durée, une temporalité qui lui est propre. Et qui est celle-là même de ces longs voyages qui ont très tôt, en quelque sorte, qui deviennent, pour une toute jeune femme adolescente qui demande à s'émanciper aussi peut-être de l'emprise de son père ou d'un mode de vie qui est celui de son père, devient aussi au fil du temps, c'est le cas de le dire, un voyage initiatique. Vous le verrez, le film est fort, il est vraiment à la fois très simple et très, très matériel aussi, je trouve, dans les couleurs, dans ces paysages dont je parle, dans l'expression très silencieuse de ces personnages et notamment de la jeune fille. On a quelques éléments, voilà, de l'histoire des personnages vont se dévoiler au fur et à mesure, mais de manière jamais surlignée, comme c'est trop souvent le cas de tant de films aujourd'hui. Et ça permet pour chacune d'entre nous de placer dans ce film, dans cette histoire, dans ces personnages, un peu ce que lui-même y perçoit, selon les émotions qu'il éprouve au fil de ces séquences. C'est un beau film, vous l'avez compris, je l'aime, il s'appelle La Grâce, j'en ai d'ailleurs fait la couverture du programme, ce n'est pas pour rien. Ce film d'Ilia Povolotsky, un premier film, est programmé pour 5 séances au Bourget.
Что ты будешь делать, когда у них всех появится интернет?
Мартышку куплю с аккордеоном. Чего тебе? Парадокс, да? Знание будущего делает его неотвратимым.
Un autre premier film, ensuite, L'homme d'argile d'Anaïs Télen, qui avait réalisé quelques courts-métrages auparavant et qui a pour lui notamment, au-delà de ses qualités d'écriture et de mise en scène, les grandes qualités de son casting. Un casting tout à fait étonnant puisqu'on retrouve aux côtés d'Emmanuel De Vos, un acteur dont vous connaissez sans doute le visage, pour ne pas dire le corps, qui s'appelle Raphaël Thiry. Raphaël Thiry, ce n'est pas mon camarade projectionniste, bien que le nom en soit proche. C'est un acteur qu'on a découvert dans Rester vertical en 2016, qui était un film d'Alain Guiraudy. Et le film d'ailleurs adopte quelques éléments, une certaine esthétique aussi, proche de certains films de Guiraudy ou du cinéma de Guiraudy en général. Cet acteur, on l'a retrouvé l'an passé dans L'Envol de Pietro Marcello. Il tient même un petit rôle dans Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui est déjà sorti mais qu'on vous montrera nous la semaine prochaine à Foire Calquier. Et L'Homme d'argile, je crois que s'il n'est pas crédité au scénario, il est crédité au générique Raphaël Thiry en tant que idée originale. Je crois que c'est lui qui a eu l'idée de ce film dont il a fait part à la jeune réalisatrice Anaïs Télen, qui a 36 ans. Et le projet s'est développé vraiment sous forme, je crois, de collaboration entre la réalisatrice et l'acteur. L'acteur qui est aussi musicien. Et on le voit, je trouve que ça donne certaines des plus belles scènes du film. Ce sont des scènes où lui joue véritablement de la cornemuse. Et c'est vraiment des très très belles scènes. Et les compositions qui sont, je crois, les siennes sont très belles elles aussi. On est vraiment là dans un schéma assez typique d'une histoire qui réunit deux personnages que tout oppose, comme on le dit souvent, de certains films. Et le film prend, un peu comme L'Envol d'ailleurs de Pietro Marcello, prend la forme d'un conte. On a là un manoir, un château, un jardinier, sa vieille mère, une chaumière, une petite maison qui habitait un peu en marge du domaine, et la rencontre entre la châtelaine en quelque sorte, qui revient de manière impromptue, et ce jardinier domestique, va donner lieu à une relation très belle, très, très ambiguë aussi entre ces deux personnages. Le film donc s'appelle L'homme d'argile, il y a évidemment question aussi de la pratique artistique et du regard que pose un ou une artiste sur un homme ou une femme qui est son modèle, évidemment d'une femme en l'occurrence qui est d'une autre classe sociale aussi et qui a d'autres aspirations que celles de cet homme. Ce film donc avec Emmanuel De Vos et Raphaël Thiry. Emmanuel De Vos qu'on retrouve beaucoup en ce moment puisque vous avez pu voir la semaine dernière Un silence, le film de Joachim Lafosse. On la retrouve ici aux côtés donc de Raphaël Thiry. L'homme d'argile donc de Anaïs Télen est programmé à cette semaine pour 5 séances.
Raphaël ?
Oui ?
Garance Cheptel, vous pouvez m'ouvrir le manoir s'il vous plaît ?
Oui, qu'elle se prend celle-là. C'est les patrons, hein. Elle demande la main au début, puis tout le branquet passe.
Elle était comment quand elle était petite?
Oh, elle était un peu spéciale, hein.
Son travail consiste à faire de sa vie une œuvre.
Toutes ces fioles, ça représente tous mes chagrins depuis 1992.
Ça tient une famille, hein.
Vous, vraiment, hein. C'est ce que vous m'inspirez. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage.
passer des jours à vous parcourir.
C'est pas à 58 ans qu'on fait une crise d'adolescence.
Un été afghan, c'est le nouveau film que l'on n'attendait plus, ou pas du tout, de James Ivory, ce réalisateur américain so British, qui aura cette année, le 7 juin prochain, 96 ans, imaginez, et qui nous a donné de très beaux films par le passé, puis les années 60, mais surtout dans les années 80, vous vous souvenez peut-être de Quartet, de Chambre avec vue, évidemment, de Maurice, de Retour à Howard's End, des Vestiges du jour, tant de beaux films inscrits dans l'histoire et la culture britannique, de manière puissamment aussi esthétique et avec une élégance, là encore, si britannique. James Ivory, qui est donc très âgé aujourd'hui, a réalisé un film, sans doute un ultime film, documentaire, qui est un essai autobiographique. Et ce film s'appelle Un été afghan, donc Color Climate. Il se repenche sur ses archives. On le voit dans sa maison, déballant des archives, des images restées dans une malle pendant 60 ans. Et il se souvient qu'il avait réalisé en 1960, qu'il avait ce projet d'un film documentaire en Afghanistan. Il tournait un film en Inde et puis il était recherchant, comme le dit le titre original, un climat plus frais. Il est allé en Afghanistan, à l'approche, aux abords de l'Himalaya, et il a filmé un Afghanistan comme nous, qui avons moins de 60 ans, ne l'avons jamais connu, même ne serait-ce qu'à travers des images, l'Afghanistan d'avant les talibans. Et les images qu'il a tournées il y a 60 ans là-bas sont d'une beauté, elles n'avaient jamais été montrées, jamais, je crois, même développées. Et il nous montre cela, il nous raconte ce voyage, ses aspirations d'alors, son homosexualité aussi, qu'il a longtemps, dissimulée, évidemment, dans la société britannique de cette époque, et qu'il a affirmé peu à peu aussi comme un élément, un motif de son cinéma. Il revient sur ça, sur sa vie, sur son parcours, et c'est un film, là aussi, très élégant et très beau, aussi, de par les voix off, de par les couleurs splendides de ces images d'alors, et par les beaux paysages et la ville, même les villes de l'Afghanistan de 1960. Un été afghan de James Ivory. Il s'est entouré de Gilles Gardner aussi pour réaliser ce film, dont la musique est écrite par Alexandre Desplat. Il est programmé pour 3 séances cette semaine, entre samedi et lundi.
In 1960, I made a trip to Afghanistan to shoot scenes for a documentary. The film would never get finished, and the footage stayed in a box, unseen, for 60 years. And Afghanistan before the Taliban, before the Russians and the Mujahideen, before the American occupation, and Afghanistan that today is a vanished world. Nearly 80 years have passed since then. And looking at these pictures of my high school classmates, I find myself looking at another vanished world. Vanished are the days where furtive glances were the closest a young gay man could get to expressing his desires.
Mon ami Robot, c'est le nouveau film d'animation, dit donc, de Pablo Berger. Je ne sais pas comment on prononce son nom exactement. Pablo Berger, il avait réalisé en 2003 Torremolinos 73, mais c'est avec Bianca Nieves, une adaptation très libre du conte fameux Blanche-Neige en 2012, qui était un film muet en noir et blanc, qu'on l'a découvert davantage. Il réalisera en 2017 Abracadabra. Il nous revient aujourd'hui avec cet ami Robot, Robot Dreams, dans le titre international, qui est aussi le titre original de la bande dessinée dont le film s'inspire. C'est une bande dessinée de Sarah Varon, qui est une romance sans parole. Et ce film, dont vous verrez l'animation, les couleurs, sont très réussies, très presque sur un mode mineur, comme ça, là, jamais tape à l'œil, et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Nous raconte une histoire très simple entre Dog, qui est un chien, alors New York est habité par des animaux sur pattes marchands, et qui ont donc des émotions, des sentiments, et qui vivent le quotidien des humains, et il s'ennuie. Il est tout seul, Dog, dans la vie, et il va commander un robot domestique, il va monter patiemment et méticuleusement dans son appartement new-yorkais, et ce robot va devenir son meilleur ami. Mais un événement va les séparer l'un de l'autre, et cette distance qui va s'instaurer entre les deux par la force des choses va susciter en nous, de manière très simple, des émotions très très belles sur ce que c'est que l'amitié. Le film est aussi une sorte d'ode à l'amitié. C'est un film d'animation, alors recommandé à partir de 8 ans pour les enfants ou les adolescents, mais c'est un film vraiment que nous autres adultes et vous qui m'écoutez pouvez tout à fait aller voir avec intérêt et pour lequel sans doute vous aurez, comme moi, beaucoup d'attachement. Mon ami robot, donc de Pablo Berger, est programmé pour 3 séances cette semaine. On termine brièvement avec le nouveau film de notre cycle Jean Eustache, entamé en octobre. Ce film, c'est Mes petites amoureuses, et on est très heureux de vous montrer ce film qui reste très méconnu. Comme vous le savez, La maman et la putain phagocytent un peu la filmographie de Jean Eustache, et que le succès relatif, mais quand même réel succès de La maman et la putain a permis à Jean Eustache de tourner dans des vraies conditions. C'est un film produit et distribué par Gaumont à l'époque. Et il va réaliser ce film qu'il couvait depuis si longtemps. C'est un projet bien antérieur à La maman et la putain, qui était simplement de raconter son enfance, son adolescence. Enfant ayant grandi à Bordeaux, né à Pessac, qui va rejoindre sa mère à Narbonne. Et c'est un film dont l'image est très belle, alors surtout dans cette version restaurée, l'image est de Nestor Almendros, qui était un grand directeur de la photographie d'alors. Et on retrouve ici, aux côtés de Martin Loeb, qui incarne Daniel, le personnage, l'alter ego de Jean Eustache, Ingrid Cavan, la chanteuse et actrice qui était l'égérie dans les années 70, notamment de Rainer Fender Fassbinder, on connaît d'Anna Chigula. On retrouve aussi, c'est étonnant, Dionis Mascolo, par exemple, le philosophe, ou Maurice Pialat, le réalisateur, pour ce film qui est une chronique de l'adolescence dans les années 70, mais il y a une sorte d'intemporalité, vous le verrez, puisque pour Eustache, c'était les années 50, le début des années 50 qui est ici représenté. Et donc ça garde un caractère assez indécidable, et d'où aussi l'universalité de ce film et de cette histoire-là, merveilleusement incarnée aussi par des jeunes acteurs et actrices non professionnels, dont Martin Loeb.
Madame Duloup a lu dans le journal que j'étais reçue au collège.
Bien sûr, les résultats des examens sont toujours dans le journal. On l'achètera, on le gardera.
Je ne comprends pas puisque l'enseignement est gratuit.
Les cours, oui, mais c'est pas tout. Il y a les livres, les cahiers, les vêtements. Il faut s'habiller pour aller à l'école.
C'est-à-dire, on nous a fait croire que le désir, enfin d'un homme en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Et je me suis aperçu que c'était complètement faux.
Complètement faux. Que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas.
On est bête quand on est jeune. C'était des caprices de gosse, c'était terrible ça.
Comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente. Mais toutes les photographies sont sentimentales.
J'arrive pas à savoir si j'ai la cote ou non avec elle.
Ah oui, elle m'avait dit qu'elle vous avait vu ce matin avec un Père Noël aux yeux bleus. Qui vous connaissait ?
Sous ma barbe, j'étais devenu confiant. Des filles qui n'avaient jamais levé les yeux sur moi me souriaient en passant.
Ce film, Mes petites amoureuses, le titre cite un poème de Arthur Rimbaud, vous sera montré et je vous le présenterai en personne samedi 10 février à 18h30. Et il y aura une seconde séance le lundi 12 à 16h. Ne le manquez pas, c'est un des plus beaux films français des années 70, Mes petites amoureuses de Jean Eustache. Sur ce, je vous laisse prendre connaissance du tout nouveau programme en séjour et je vous dis à la semaine prochaine.